Et nous sommes en compagnie de Valérie Beaudoin pour parler des choses qui se passent in America.
Oui.
In America. Bon, écoute, la grosse affaire aujourd'hui, c'est la Cour suprême qui se penche sur le droit à l'avortement qui est menacé encore une fois aux États-Unis. C'est pas la première fois. Donc là, on se penche sur une loi adoptée en 2018 au Mississippi qui restreint l'accès à l'avortement. Et parle-nous des enjeux et de quand est-ce ça va être long d'avoir la réponse.
Oui, la réponse, on va l'avoir au printemps. Ça veut pas dire parce qu'aujourd'hui, on en parle que ça va être rapide comme réponse, mais juste pour vous mettre les gens en contexte, ça fait 50 ans qu'on attend ce moment-là chez les conservateurs. Eux, ce qu'ils se disent, c'est justement que Roe contre Wade, qui est la décision de 1973...
Original.
Oui, qui dit finalement, Marc-Claude, que c'est légal pour les femmes d'avoir accès à un avortement jusqu'à ce qui est viabilité du fœtus. Pourquoi je te précise ça? Parce que c'est vraiment ce qui est au cœur de cette question-là au Mississippi. Parce que normalement, dans la loi, donc selon cet arrêt de la Cour suprême, on peut avoir un avortement jusqu'à 23 ou 24 semaines. Et depuis des années, les États conservateurs testent la loi, essaient de mettre des lois qui vont restreindre. On est bloqué par les tribunaux inférieurs. Mais là, la Cour suprême, qui est conservatrice, a choisi de les entendre. A choisi d'entendre les gens au Mississippi qui, eux veulent finalement qu'à partir de 15 semaines, eh bien, c'est illégal de se faire avorter, peu importe les circonstances. C'est ce qui est en jeu en ce moment. Et aujourd'hui, ce qu'on avait, c'est vraiment les arguments oraux. Donc, les gens du Mississippi qui se présentent devant les 9 jours à la juge à la Cour suprême pour donner leurs arguments, et bien sûr, les cliniques d'avortement qui sont contre cette restriction. Et sache qu'il n'y a qu'une seule clinique au Mississippi pour l'État au complet. Donc déjà là, on a restreint d'une façon contournée un peu l'accès à l'avortement.
Bon, et si jamais on renversait ce jugement de Roe versus Wade, moi j'ai toujours entendu en anglais comme ça.
Roe v. Wade.
Que se passerait-il et est-ce que l'avortement deviendrait du jour au lendemain illégal partout aux États-Unis?
Oui, parce que la question, c'est si on dit, ben écoute, c'est accepté, on donne le OK au Mississippi pour restreindre à 15 semaines, est-ce que ça va tomber, cette loi-là, donc qui donnait un droit jusqu'à 23-24 semaines?
Ça serait interdit passé 15 semaines
C'est ça, mais avec la jurisprudence, tu dis une fois que ça tombe pour une date, pourquoi, comment est-ce qu'on peut justifier de garder Roe v. Wade quand on a déjà fait une brèche? Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des lois, je vais le dire en anglais parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé, il y a des trigger laws, donc des lois qu'on a déjà...
C'est
difficile de dire le terme en français, mais où on a déjà prévu que le jour où Roe contre Wade, pour le dire à la version française, va être annulé, eh bien, automatiquement, on a déjà des lois anti-avortement qui vont se mettre en place. Ça veut dire que dans la moitié des États-Unis, ce sera illégal pour une femme d'avoir accès à un avortement, tandis que dans l'autre moitié, là, je fais ça grossièrement, on a déjà mis des lois pour protéger, au contraire, l'accès à l'avortement. Vous comprendrez que dans les États où ça restreint, c'est des États conservateurs, et dans les autres, eh bien, c'est des États démocrates. Donc, à suivre vraiment ce dossier-là qui est de plus en plus chaud aux États-Unis, même 50 ans après cette décision-là.
C'est incroyable. Le premier cas du variant Omicron qui a été détecté aux États-Unis, Valérie.
C'était une question de temps. Hein? Le docteur Anthony Fauci, Joe Biden l'a dit, c'était même en une du New York Times, du Washington Post, qu'on a eu les premiers cas au Canada. Donc, quand j'ouvrais mes journaux sur le web, je voyais le Canada. En gros, je disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on avait cette peur de dire qu'il y aura le variant, ce variant qui inquiète actuellement partout sur la planète. Et là, c'est en Californie. Donc, on a déjà pris des mesures. On a restreint dans les derniers jours les voyages des gens provenant de certains pays d'Afrique. On continue de surveiller la situation. Et aux États-Unis, c'est un peu le même principe qu'ici. On encourage les gens à se faire vacciner. Aux États-Unis, on a aussi la troisième dose qui est pour tous les adultes disponible. Donc, on n'a pas le même principe exactement qu'ici. Alors, on est vraiment dans cette idée de retour à la normale. Oui, on ne veut pas revenir en arrière, mais on veut que les gens se protègent et que les gens fassent attention.
Bien. Et puis, quand je disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis
en ce moment... On pourrait se parler une émission entière.
Complètement, et même plus longue que l'émission, Valérie. Toujours dans l'actualité d'aujourd'hui, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, semble s'éloigner de plus en plus de son ancien boss. En tout cas, il sort un livre où il affirme quelque chose d'assez gros. Oui. Que le président Trump avait testé positif à la COVID-19 quelques jours avant le débat avec Joe Biden.
Et ça, imagine... Écoute, il aurait testé positif... On aurait choisi d'aller de l'avant avec tous les événements. Donc, on avait des événements avec des vétérans de l'armée, donc des gens qui sont retraités de l'armée, des gens assez âgés aussi. On a décidé d'aller aussi justement faire ce débat. Pourquoi? Parce qu'on a eu un premier test qui était positif, un deuxième négatif. Donc, ce qu'on a dit finalement, c'est qu'on voulait pas parler du premier qui était positif. Et même si tu te rappelles à l'époque, et là, je veux voir si tu as une bonne mémoire, dans ce débat-là, on était en pleine COVID, Joe Biden contre Donald Trump, il était arrivé tellement juste au débat qu'il n'avait pas pu passer le test. Mm-hmm. Donc, il avait comme mm-hmm. essayé, on avait dit, coudonc, est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Pourquoi est-ce qu'il essaie? Il veut pas passer son test. Donc, on avait cette loi d'honneur en disant, ben, c'est le président des États-Unis, il nous dit qu'il est négatif, on va lui donner la chance de le faire. Et là, dans ce livre-là.
Puis il a
on
serré
dit,
la main, évidemment.
On était à distance. Les gens autour de lui portaient un masque. C'était après un événement qu'on avait appelé, je vais utiliser encore une expression en anglais, un super spreader. Donc, un événement où il y avait eu beaucoup de cas de COVID à la Maison-Blanche. Donc, on n'était pas à l'époque où il y avait des restrictions. Et le problème, ben, Donald Trump, tu peux comprendre. Qu'est-ce qu'il a eu comme réponse à son ancien chef de cabinet? Fake news, c'est des fausses nouvelles. Je n'ai jamais dit que j'avais testé positif à la COVID-19. Et bien sûr, il met de côté son ancien chef de cabinet.
Bon, et puis il nous reste 30 secondes. Oui. Simplement, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais simplement que le célèbrissime Cuomo, celui de CNN, a perdu sa job hier pour avoir aidé son frère.
L'autre.
Alors, qui lui est dans toutes sortes de misères.
Oui, alors Andrew Cuomo, ancien gouverneur de l'État de New York, qui était avec une dizaine de cas d'accusations d'harcèlement sexuel. Chris Cuomo, son frère, qui l'avait défendu, qui lui avait en coulisses aidé. Et là, ce qu'on a appris dans les derniers jours, c'est que non seulement il l'a aidé, il aurait, utilisé ses sources journalistiques pour trouver les victimes présumées de son frère. Alors, il est allé très loin. CNN a tardé à réagir, mais là, à la lumière de ces nouvelles allégations-là, ben, finalement, on n'a pas eu le choix de le suspendre de façon indéfinie. Chris Cuomo, qui avait l'émission numéro 1 à CNN, est-ce qu'il va revenir sur les ondes? Ça reste à voir.
Je ne serait pas.
Peut-être une retraite, hein? Avec son frère, ils iront dans un chalet
retraite,
ou quelque chose.
Je pense pas du monde pauvre, de toute façon. Mais sinon, si ça sera peut-être un autre réseau qui va décider d'embaucher ou je sais pas. Mais
de façon prudente, peut-être.
C'est quand même allé assez loin, cette affaire-là.
Tout à fait.
Quand t'es journaliste, t'es pas supposé faire ça.
On a franchi une ligne qui n'était pas à franchir.
Exactement. Merci beaucoup, chère
Valérie. Avec plaisir.
Bonne soirée à toi.
Bonne soirée.
À bientôt. On s'arrête, 16h36. Au retour, Marjorie Vallée va nous mettre en contact avec Catherine, qui, elle, est aux Îles de la Madeleine. J'espère qu'elle va avoir attrapé un petit peu l'accent si coloré des îles.